Radio Okapi. Blaise Chidani au micro. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée dont voici d'abord les titres. La Belgique tire la sonnette d'alarme sur la crise persistante dans la région à l'issue du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Face à cette urgence, le chef de la diplomatie belge appelle à une action européenne plus ferme et immédiate. Il plaide également pour la réouverture de l'aéroport de Goma à des fins exclusivement humanitaires. La province du Congo central fait face à une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Depuis le début de cette année 2026, 351 nouveaux cas sont déjà enregistrés dans 10 zones de santé avec 5 décès. L'invité de ce journal est Paul Sampou, président de la CNDH. Il s'exprime sur les arrestations enregistrées ces derniers temps de plusieurs personnalités parmi lesquelles des opposants politiques. Il explique le rôle que son institution joue pour s'assurer que les droits des personnes arrêtées sont respectés. Encore une fois, bonjour à tous. La Belgique alerte l'Union européenne contre un conflit oublié dans l'est de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi sur la crise persistante dans la région à l'issue du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il a décrit une situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante, marquée notamment par des violences sexuelles massives. Face à cette urgence, le chef de la diplomatie belge appelle à une action européenne plus ferme et immédiate. Il plaide également pour la réouverture de l'aéroport de Goma à des fins exclusivement humanitaires afin de faciliter l'acheminement de l'aide aux populations affectées. On écoute Maxime Prévot dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Sur le terrain, la situation est pire que jamais, extrêmement préoccupante sur le plan humanitaire. C'est une des raisons pour laquelle nous avons poussé avec d'autres collègues pour que cela figure à l'agenda de ce jour. Je m'étonne d'ailleurs que ce soit seulement la deuxième fois que la situation à l'est du Congo soit traitée en l'espace d'un an. Ça ne peut pas être un conflit oublié, c'est un conflit pour lequel l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles solution de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. L'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma, par exemple, pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport.
Les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankoro sont bientôt connus. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rendu public jeudi dernier le calendrier officiel pour leur élection. Ces chronogrammes détaillent les différentes étapes du processus électoral allant des préparatifs techniques jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Les grandes étapes de ces calendriers électoraux nous sont fournies par Esther Ndalafina.
Du 28 janvier au 3 février, la CENI prévoit les préparatifs techniques, la formation du personnel et l'aménagement du bureau de réception et traitement des candidatures BRTC. Du 4 au 10 février, dépôt des candidatures auprès du secrétariat exécutif provincial de la CENI à Lusambo. Les listes provisoires des candidats seront publiées le 19 février prochain. Du 2 au 6 mars, soit 2 jours pour le traitement des contentieux par la Cour d'appel du Sankoro après le dépôt des recours. Le 9 mars est consacré à la publication de la liste définitive de candidats. La campagne électorale aura lieu entre le 20 et le 22 mars prochain. C'est le 24 mars que se tiendra l'élection du gouverneur et vice-gouverneur par les députés provinciaux, suivi de la publication des résultats provisoires par l'Assemblée plénière de la CENI. Signalons que ce scrutin intervient dans un climat particulier. Le gouverneur sortant Victor Kitenge avait été déchu le 26 mai dernier par l'Assemblée provinciale. Les élus lui reprochaient une mauvaise gestion des affaires provinciales, notamment sur le plan sécuritaire, ainsi que son refus de répondre aux convocations des députés provinciaux. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Santé à présent, la province du Congo central fait face à une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Depuis le début de cette année 2026, 351 nouveaux cas sont déjà enregistrés dans 10 zones de santé avec 5 décès. C'est ce qu'a révélé le ministre provincial de la Santé du Congo central dans un message officiel adressé à la population pour éviter l'expansion de cette maladie hautement contagieuse. D'après Dr Ovid Yobila, pour éradiquer l'épidémie de rougeole, le gouvernement provincial du Congo central a renforcé les actions de riposte. Il appelle de cet effet chaque parent à faire vacciner tous les enfants âgés de 0 à 23 mois dans les centres de santé les plus proches. On écoute le docteur Ovid Yobila dans cet extrait de son message choisi par Nana Plurichmambo.
Depuis l'année 2025, notre pays fait face à une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Il s'agit d'une maladie hautement contagieuse qui touche principalement les enfants non vaccinés et peut entraîner de graves complications, voire la mort. La province du Congo central n'est malheureusement pas épargnée. En 2025, la province a enregistré 5 décès sur 479 cas de rougeole notifiés dans 28 zones de santé. Sur les 192 échantillons prélevés, 96 ont été confirmés positifs. Depuis le début de l'année 2026, la situation demeure préoccupante avec au moins 5 décès sur 351 nouveaux cas enregistrés. Ces chiffres confirment que la province du Congo central est actuellement en situation d'épidémie de rougeole. Face à cette situation, le gouvernement provincial du Congo central a enregistré et renforcé les actions de riposte. Ces actions portent notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge des cas dans les structures de santé et l'organisation des activités de vaccination. J'en appelle à la responsabilité de chaque parent et de chaque famille. Amener immédiatement l'enfant au centre de santé en cas de fièvre, d'éruption cutanée généralisée, de toux, de rougeur des yeux, d'écoulement nasal et de tout autre symptôme suspect.
Santé encore, l'épidémie de Mpox est en nette régression en Afrique et en RDC en particulier. Cependant, elle n'est pas encore finie. Information donnée par le ministère de la Santé au cours du dernier conseil des ministres du vendredi 30 janvier 2026. D'autres détails avec Patrick Muyaya Katembwe dans cet extrait du compte-rendu du conseil des ministres sélectionné par Jean Ganduka Bongo.
Au sujet du Mpox, il a été rapporté que le directeur général d'Africa CDC a procédé à la levée de l'urgence des santé publique des sécurités continentales pour cette épidémie après la levée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS en septembre 2025. Cette décision fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique avec la baisse considérable des nombres de cas de décès au niveau du continent, notamment en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Burundi, en Ouganda. Cependant, la maladie n'est pas finie, elle reste endémique. Ainsi, le ministère de la Santé maintient les Mpox comme une urgence nationale jusqu'en mars 2026.
Parlant justement de Mpox, cette maladie continue à faire parler d'elle dans la province de la Tchopo, plus précisément dans la zone de santé de Bassoko. Le choléra n'est pas non plus en reste, comme nous le rapporte Jacques Moukonkolé.
1er janvier courant au 28 du même mois, soit 4 semaines durant, le choléra fait des victimes à Bassoko. 57 cas enregistrés pendant cette période, dont 2 décès. Parallèlement à cette pathologie, la Mpox s'est fait également parler d'elle. 3 personnes en sont mortes. Selon le superviseur d'hygiène, eau et assainissement, Robert Essabé, les conditions sanitaires laissent beaucoup à désirer dans cette entité. En dépit des campagnes de sensibilisation organisées par des équipes cadres de la santé, seuls 17% de la population locale utilise des toilettes hygiéniques. La proximité avec le fleuve Congo et la rivière Aruwimi fait qu'une partie de la population se rabat à ces cours d'eau comme des potoirs et leur lieu d'aisance. En conséquence, cette situation favorise la propagation des maladies d'origine hydrique au sein de la population. Afin de pallier la carence d'eau potable à Bassoko, le superviseur d'hygiène eau et assainissement plaide pour l'amélioration des conditions y afférentes.
Nous plaidons par rapport à la construction et réhabilitation des points d'eau dans la zone de santé de Basoko pour améliorer les conditions sanitaires de la population.
Il recommande également l'édification des latrines publiques et la sensibilisation de la population sur le traitement de l'eau. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okatanga.
Province du Haut-Katanga, le maire à l'intérim de Lubumbashi a interdit ce jeudi l'ouverture d'une morgue privée. Pour Joyce Tunda Chansa, cette morgue est construite dans des conditions qui ne respectent pas les normes requises. Elle est érigée notamment sur un terrain marécageux. Pour les services techniques de la mairie, cette morgue expose les habitants à des risques sanitaires. D'autres détails avec Paul Monanka.
L'autorité urbaine de Lubumbashi a découvert cette morgue au moment où elle effectuait une tournée dans la ville. Cet ouvrage est fraîchement construit sur le boulevard Katuba, près du bureau du quartier Lubaba dans la commune Kamalondo. Joyce Tunda Chansa, maire intérimaire de Lubumbashi, s'est rendu compte que la morgue est construite sur un terrain marécageux à proximité des maisons d'habitation et d'un passage menant vers la rivière Lubumbashi. Les services techniques de la mairie ont relevé l'absence d'un système d'évacuation des eaux usées. En outre, le funérarium est implanté à côté d'une grande route à forte circulation. Il y a aussi l'absence d'espace et de stationnement des véhicules. Constat fait sur place, la maire intérimaire de Lubumbashi a décidé de ne pas délivrer l'autorisation de fonctionnement du funérarium. Joyce Tunda Chansa.
Après les constats, ça sera très difficile qu'on puisse donner l'autorisation de fonctionnement. Avec tout ce qu'on a constaté, je pense les techniciens sont ici présents.
Signalons aussi que les promoteurs de la morgue ont reconnu séance tenante qu'ils n'ont pas sollicité au préalable l'avis des autorités compétentes pour la construction de cet ouvrage. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans un autre registre, les travaux de construction des trois châteaux d'eau dans le territoire de Demba sont à l'arrêt depuis plus d'une année. Ces ouvrages réalisés dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques avaient pour objectif d'améliorer l'accès de la population à l'eau potable. Ils sont destinés aux habitants des Apozapo de la commune rurale de Demba et ceux de Benaleka. La nouvelle société civile congolaise, territoire de Demba, appelle le gouvernement congolais à s'impliquer pour la reprise et l'achèvement de ses travaux. Détail à suivre dans ce reportage signé André Katendengala Mouloumé.
Selon les coordonnateurs territoriaux de la nouvelle société civile congolaise de Demba, plusieurs raisons expliquent l'arrêt de ces travaux. Ils citent notamment le retard dans les financements du projet par le gouvernement central, les vols répétés de certains matériaux par l'équipe de maintenance et par une partie de la population, ainsi que la faible implication des autorités locales dans la gestion des biens publics. Au niveau des Apozapo, tout est terminé, il ne reste plus que l'eau soit distribuée à la population. À Demba, les tuyaux de distribution sont déjà installés, mais le château d'eau est encore en chantier. Enfin, à Benaleka, les travaux de construction sont achevés, mais les tuyaux ne sont pas encore installés. Face à cette situation, Marcel Massanka, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, appelle toutes les parties prenantes à s'impliquer afin de permettre l'achèvement de ces ouvrages et de garantir à la population de Demba l'accès à l'eau potable.
Que tout intervenant puisse écouter notre plaidoyer afin que ce projet aboutisse. Nous voulons avoir de l'eau qui peut asservir toute notre population du territoire de Demba.
Signalons que ces travaux ont débuté en 2024 pour une durée d'une année. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, plus de 4500 enfants ont été réunifiés avec leur famille au cours de l'année 2025 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Lubero et Nirangongo ainsi que dans la ville de Goma. Ces opérations ont été réalisées par l'organisation Union pour la paix et la promotion des droits de l'enfant au Congo, UPDECO, avec l'appui de l'UNICEF. Ces enfants ont été séparés de leur famille pendant la période de la guerre dans cette zone. Les familles bénéficiaires saluent aujourd'hui ces interventions qui leur ont permis de retrouver les leurs après plusieurs mois d'angoisse. Les détails avec Rosalie Zawadi.
Cette mère du village de Kinyandoni dans les Rutshuru raconte avoir perdu son enfant en janvier dernier lors des affrontements alors qu'elle vivait dans un camp de déplacés autour de Goma. Pendant qu'il avait perdu tout espoir, les membres de l'UPDECO lui ont ramené son enfant à domicile. Comme lui, ils sont au total 4710 enfants à avoir retrouvé leurs proches grâce à ces projets. Pour Gédéon Lukando, chef des programmes de l'UPDECO, ces résultats sont les fruits d'une synergie d'efforts entre plusieurs acteurs.
Nous travaillons avec les réseaux communautaires pour la protection de l'enfance. Les RECOPE nous aident pour identifier les familles dans leur milieu. Mais à part les RECOPE, nous avons des points focaux recrutés localement. Mais à part aussi ces engins locaux, nous avons des structures partenaires locales, mais aussi y compris l'autorité locale, qui nous aide à identifier les familles et des enfants séparés.
Ce travail de réunification a été mené dans le cadre du projet Identification, Documentation, Recherche et Réunification familiale des enfants en rupture familiale, un projet mis en œuvre avec l'appui de l'UNICEF. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, difficulté de fonctionnement de la division provinciale de la fonction publique. Plus de 30 ans après son installation, cette division ne dispose d'aucun matériel informatique. Conséquence, elle recourt aux services extérieurs, dont les cybercafés et autres bureautiques, pour la saisie et l'impression des documents officiels, voire confidentiels. Les chefs de division provinciale chargés des actifs du Maniema fait savoir que cette pratique risque d'occasionner la fuite des secrets professionnels de la division. Kishabongo Lupanzula demande aux autorités compétentes de doter cette division des kits informatiques pour leur permettre de bien travailler. Kishabongo Lupanzula s'est confié à Florence Kizalunga.
La fonction publique, nous sommes en train de travailler, mais nous avons des difficultés. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est le monde informatique. Mais chez nous ici, pour travailler, nous devons toujours courir à l'extérieur pour saisir les documents et tout, et tout, et tout. Cela nous expose beaucoup parce que par rapport au secret professionnel, tout ce que nous faisons risque d'être pendé partout, partout là-bas et puis ça n'arrange pas les services. Et à cela, en tout cas, nous faisons seulement notre plaidoyer aux autorités tant provinciales que nationales de nous aider, surtout d'avoir d'abord un kit informatique qui peut nous aider à bien travailler. Parce que notre service est considéré comme un service carrefour. C'est nous qui recevons toutes les correspondances et nous devons toujours faire des projets, des réponses. Même les gouverneurs professionnels, nous avons des lettres ici que nous devons répondre. Il faut toujours courir à l'extérieur. En tout cas, nous sommes exposés par rapport au secret professionnel. Depuis que la fonction publique est installée au Maniema, parce qu'auparavant, le Maniema dépendait de Bukavu. Mais quand on a scindé la province de Bukavu, jusque-là, la division provinciale de la fonction publique n'a jamais été dotée de rien, même les kits informatiques. Donc, nous n'avons hérité rien, rien, rien. Même les chaises que nous avons ici, ce sont les osages qui s'arrangent pour amener des chaises à la maison et on s'installe comme ça.
Actualité internationale.
Au Mali, un nouveau convoi de camions transportant du carburant a été la cible d'une attaque attribuée aux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Nîmes affiliés à Al-Qaïda, survenus dans la région de Kayes, dans l'ouest du pays, sur l'axe qui mène à la frontière sénégalaise. Celle-ci a fait plusieurs victimes.
L'invité.
Notre invité est Paul Sampou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Il s'exprime sur les arrestations enregistrées ces derniers temps de plusieurs personnalités, parmi lesquelles des opposants politiques. Il explique le rôle que son institution est en train de jouer, ainsi que les efforts qu'elle fournit pour s'assurer que les droits des personnes arrêtées sont respectés. Paul Sampou s'entretient avec Alain Hirung.
Paul Sampou, bonjour. Plusieurs personnalités dont des opposants ont été arrêtées par le Conseil national de cyberdéfense CNC et plusieurs observateurs dénoncent des arrestations arbitraires. Quelle est la réaction de la CNDH?
La CNDH aborde cette situation avec responsabilité et sang-froid. Elle suit avec attention l'ensemble des interpellations et arrestations signalées, y compris celles de certaines personnalités politiques et même civiles, sans distinction de statut ou d'appartenance. Et aussi, conformément à son mandat légal, la CNDH ne se prononce ni sur la culpabilité, ni sur l'innocence des personnes concernées. Encore moins, la CNDH ne se prononce pas sur le fond des procédures judiciaires en cours. Sa préoccupation majeure ou essentielle demeure la protection de la liberté individuelle, le respect des garanties procédurales et la prévention de toute atteinte aux droits fondamentaux dans un contexte national particulièrement sensible.
Que répondez-vous à certains Congolais qui trouvent que votre dernier communiqué sur ces arrestations est ambigu et laisse penser que la CNDH n'est qu'une caisse de résonance du pouvoir en place?
Oui, nous comprenons les attentes et parfois les frustrations exprimées par une partie de la population. Toutefois, il est important de rappeler que la mission d'une institution nationale des droits de l'homme n'est pas de produire des déclarations émotionnelles aux partisans, mais de communiquer avec rigueur, responsabilité et impartialité. Notre communication est volontairement mesurée parce qu'elle doit préserver l'indépendance de l'institution, éviter toute confusion avec le rôle des juridictions et garantir la crédibilité de nos futures interventions. Cette prudence ne signifie pas le silence et la neutralité ne signifie pas l'indifférence. D'ailleurs, beaucoup de milieux avisés et informés nous ont beaucoup félicité à la diffusion de notre communiqué à propos de cette situation, des arrestations, des interpellations.
Que fait concrètement la CNDH pour s'assurer que les droits des personnes arrêtées sont respectés?
D'abord, la CNDH collecte et analyse les informations relatives à ces interpellations et arrestations à travers ses services techniques et ses bureaux de représentation provinciale. Et cette récolte d'informations peuvent surgir du côté des avocats ou des membres des familles de la personne arrêtée ou interpellée. Cette source-là et tout ça nous permet de réaliser une analyse et voir la nécessité de mener des recherches, dans certains cas, répertorier, retrouver, identifier l'endroit avec le concours, bien sûr, à la suite d'un dialogue, échange avec responsables de ces services de sécurité. Ensuite, lorsque cela est nécessaire, la CNDH procède à des visites de monitoring dans les lieux où sont gardées ces personnes, échange avec la CNDH, échange avec les autorités compétentes et aussi maintient un contact avec les avocats et les membres de famille des personnes en difficulté. Alors, dans tout ça, nous essayons de conseiller des responsables plutôt, des institutions habilitées à mener des enquêtes.
Et pour terminer, quel message pouvez-vous adresser à certains Congolais qui pensent que la CNDH est à la solde du pouvoir en place?
La CNDH, mon institution, tient compte du contexte exceptionnel que traverse notre pays. Un contexte marqué par une agression extérieure et des menaces réelles contre la sécurité nationale et la stabilité des institutions. La CNDH respecte la liberté d'opinion, mais elle rejette toute lecture réductrice de son rôle.
Paul Nsapu, je vous remercie.
C'était notre invité Paul Nsapu qui s'entretenait avec Alain Rungmouchinch. Et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné et supervisé par Jean-Gandou Kabongo. Et la mise en onde était assurée de main de maître par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore suivre ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.